Alors, je vais reprendre plusieurs des thématiques qu'on a pu survoler, aussi bien la Madeleine de Proust que le soi, mais je vais le reprendre en essayant de vous intéresser à d'autres façons de considérer justement les lieux, et notamment donc comment les lieux neuromodifient-ils nos affects, titre de mon exposé que vous retrouverez évidemment en complet dans les archives de Denis. Quatre parties, donc d'abord la notion d'habitabilité dans un système planétaire, évidemment sous l'angle affectif du colloque, la structure urbaine qui conditionne affectivement et cognitivement nos façons de penser, de bouger, de nous émouvoir et même de respirer la vie. Quelques mots du fait que l'urbanisme influencera aussi nos descendants et enfin un rapport justement à notre neurobiologie pour penser un petit peu comment un effort d'attention au lieu nous permet de modifier notre affect. Tout d'abord, alors, parler un petit peu de la planète, parce qu'on a tendance à oublier que nous sommes sur un lieu qui s'appelle planète Terre. Et c'est assez intéressant de pouvoir le comprendre à cette échelle-là, c'est-à-dire que si nous étions sur une planète autre, qui aurait une autre gravité, qui serait plus proche de son étoile locale ou plus éloignée, eh bien, nous serions différents dans notre façon de penser, dans notre morphologie, dans la façon de fonctionner même de notre organisme. Donc il est intéressant de considérer à quel point un lieu tel qu'une planète peut nous amener à être ce que nous sommes ou pas ce que nous sommes. Je vais en venir évidemment à plus petit, à notre échelle, nous sommes ici dans un château. Et ce qui peut être intéressant est de considérer comment dans un lieu, l'habitant qui sommeille au plus profond de chacun d'entre nous, donc la notion de conscience, la conscience de soi, s'éveille ou demeure endormi selon qu'il comprend ou non son rapport à l'habitat, à l'environnement, à son substrat, on peut penser en biologie, donc entendant au lieu de vie d'où il tire sa substance, lui assurant sa subsistance. Alors je prendrai un exemple simple. Quand on est dans un château, sans s'en rendre compte, qu'il y a des mécanismes, alors on a un petit peu parlé pendant le colloque, mais intéressant transversalement d'y revenir, qui nous amène à une vanité, par exemple, attention, je joue le rôle d'un aristocrate, quand je suis dans un château, ça se balade dans chacun de nos cerveaux. Si jamais ça se passait, non pas dans un château, mais dans un ranch en Californie, eh bien, beaucoup d'entre nous, sans le savoir, seraient le lieu conditionné neuronalement pour soudainement jouer le cow-boy ou la cow-girl. Donc ça devient intéressant de se positionner aussi sous cet angle-là. Alors, pour aller un peu plus loin, ce qui peut être intéressant aussi est de considérer donc que nous découvrons que ça, ce ça, je dirais que c'est la machine en nous, la mécanicité, ça ressent, que ça pense en nous différemment selon que nous existons dans un lieu ou dans un autre lieu. Souvent, notre rapport affectif au lieu est conditionné donc par une ambiance, quelqu'un nous accompagnant ou ne nous accompagnant pas dans ce lieu. Donc, une ambiance qui est liée beaucoup aux autres grands singes autour de nous, qui évidemment modifie notre cerveau dans sa façon d'appréhender le lieu lui-même. Alors, par exemple, quand on est, alors je reviendrai sur ce que vient de dire Nicole, par exemple, on est dans cette salle, on peut se dire si jamais le plafond était plus haut, s'il était plus bas, au contraire. Comment serions-nous capables d'appréhender la réalité de ce lieu? Alors, ça a été un petit peu traité aussi par deux ou trois pendant le colloque, mais il est intéressant, transversalement, là encore, de nous y attarder, de nous positionner sur, finalement, comment nos cerveaux réagissent. Et si nous étions en effet dans une salle extrêmement froide, on tremblerait tous de froid, on grelotterait, et nous ne serions peut-être pas à même de réfléchir comme nous réfléchissons maintenant. Alors évidemment, pour ceux qui me connaissent un peu, vous anticiper déjà vers où va mon propos, c'est-à-dire finalement c'est pas moi-je qui pense, puisque ce moi-je s'éveille dans une machinerie neurobiologique qui elle-même est modifiée par le lieu, justement si le lieu est froid, chaud, s'il est avec un plafond qui me tombe sur la tête ou au contraire 6 mètres de haut, évidemment ça me donne l'impression que j'étouffe, au contraire que je respire, donc on est en plein dans cette problématique neurobiologique du lieu. Alors, pour aller là encore un petit peu plus loin, on peut se dire que nous avons dans notre cerveau et ça a été dit aussi pendant le colloque, mais c'est intéressant d'y revenir, une capacité à conceptualiser, c'est-à-dire à avoir une créativité de construction, de concept. Et de concept, ça veut dire qu'on peut voir, entre guillemets, les yeux fermés, c'est-à-dire on peut réactiver les mêmes régions neuronales d'ailleurs que lorsqu'on a les yeux ouverts, mais pour se rappeler ou pour anticiper. Donc des fonctions cérébrales qui sont quand même assez intéressantes. Et on se rend bien compte à ce moment-là qu'on arrive vers une autre notion, une notion de lieu intérieur, on pourra dire. Alors, si je reprends un petit peu la notion d'urbanisme humain ou d'humain dans l'urbanisme, on pourrait dire, ce qui devient intéressant est de comprendre ce que nous devenons depuis ce dans quoi nous habitons. Donc l'habitat aurait un effet épigénétique, je vais loin dans mes propos, mais on peut se demander jusqu'à un certain niveau, est-ce que certains lieux sont pour nous, alors ça corrobore ce que vient de dire Nicole, ont un effet salutaire, donc le bien-être ressenti dans un lieu, la respiration, les émotions sereines, ou au contraire délétères, le stress, le burn-out, les cancers. Donc on peut apercevoir ici tout de suite les influences de ces lieux sur nos cerveaux. Ensuite, eh bien, évidemment, alors on peut prendre, oui, c'est vrai aussi, la notion alors des escaliers que nous montons et des trains que nous prenons, et réaliser que cela modifie des jonctions entre muscles et neurones moteurs, par exemple. Donc on est, sans s'en rendre compte, aussi cérébralement, alors c'est peut-être une notion qui va être... Pas très simple à vous transmettre, mais je pense qu'elle est quand même... je peux la transmettre simplement. Bon, on marche, par exemple, vous marchez à plat, votre cerveau se met à fonctionner, oui, comme s'il était à plat, si j'ose dire. Quand vous vous mettez à grimper des escaliers, descendre des escaliers, vous vous rendez bien compte que votre cerveau est dans un mode de fonctionnement qui l'oblige à un effort, ou au contraire, à être attentif, à ne pas tomber. Donc tous ces efforts-là influent sur la façon dont nous pensons, dont nous réfléchissons, dont nous nous émouvons, et tout ça est lié à ce lieu, à un lieu qui monte ou qui descend. Pour aller un petit peu plus loin, on peut penser, oui, le rapport aussi de proximité des lieux. Au Moyen-Âge, alors ça a été aussi un petit peu débattu ici, et même entre deux moments de colloque, il est évident que les chevaliers guerroyaient, les sires locaux guerroyaient à 5 km de chez eux, parce qu'il y avait un château voisin, il fallait, pour éviter une disette, voler les paysans, ou que sais-je, ou tout simplement s'emparer des terres, bon. Et donc, maintenant, on ne s'en rend pas tout à fait compte, mais c'est tout de même assez énorme. On voyage, par exemple, avec une distance non pas de 5 km, mais avec nos moyens de transport actuels, ce sera 50 km, voire bien plus. Ce qui nous amène à d'autres considérations qui sont absolument impressionnantes. Par exemple, alors je vais évidemment me vieillir de quelque temps, vous l'aurez compris, quand en 1920, je prenais le train pour me rendre de la Bastille, donc à Paris, jusqu'à la gare de Rueil. Eh bien, à ce moment-là, je me trouvais à traverser des champs, des usines. D'ailleurs, vous connaissez tous l'origine de l'expression Champs-Élysées. Mais les Champs-Élysées, ça a été à une époque de vrais champs. Et ce qui devient très intéressant, c'est de se dire qu'on apercevait vaguement à cette époque-là, donc 1920, une circulation modérée d'hypomobiles et d'automobiles. Maintenant, en 2020, eh bien, c'est complètement différent. On va prendre un train qui ne sera plus en surface, mais sous terre, qui ne roule plus à 30 km/h, mais à 80 en vitesse de pointe, en termes de train métropolitain, je parle du métro. Et évidemment, si on est en surface, on va s'apercevoir qu'il n'y a plus d'usines, il n'y a plus de champs, mais il y a des immeubles, il y a des rues. Alors on comprend bien combien le rapport à l'urbanisme donc, nous montre des lieux qui changent, mais aussi comment dans notre cerveau, à force d'aller d'un endroit à un autre d'une part et d'aller très vite d'un endroit à un autre, on modifie carrément notre rapport au lieu d'une façon qui est extraordinaire. Alors évidemment, ça nous amène à progressivement nous interpeller, enfin être interpellés par la question du futur, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va donner au niveau de nos descendants, puisqu'on peut se positionner sur des faits... alors, il y a une petite faute, d'ailleurs, dans mon texte, quand vous le lirez, c'est pas évidemment nos ancêtres du néolithique, mais du paléolithique. Nos ancêtres du paléolithique avaient, alors là, si je rentre dans le septum, une région qui, dans le cerveau humain sapiens, permet d'avoir des motivations, de gérer des motivations, eh bien, on va avoir d'emblée, spontanément, une peur du serpent. Mais on n'aura pas une peur du fil électrique. Or, le fil électrique, aujourd'hui, est plus dangereux que le serpent, chez nous qui sommes urbains. Donc, à partir de là, on comprend bien à quel point il faut se positionner sur l'avenir en pensant vraiment concrètement le rapport au lieu comme un rapport qui se modifie. J'entends, si on se propulse vers les années 2050, on sait très bien qu'on aura la ville de Paris qui sera à la température de la ville de Toulouse en 2010. En clair, on aura des palmiers dattiers à Paris. Ça veut dire aussi que eh bien, le climat sera différent, il sera peut-être lourd, sera peut-être chaud. Et à Toulouse, ce sera peut-être étouffant. On ne sera plus la ville rose avec le bonheur de pouvoir se dire, voilà, nous sommes dans un endroit où on va dire, je ne sais plus quelle est l'expression, ça me reviendra peut-être, mais ce sera plutôt, tu me pompes l'air. Hein, parce que, voilà, on arrive sur un moment où le changement, donc, géoclimatique d'un lieu affecte évidemment alors notre hypothalamus, donc la région du cerveau qui va pouvoir gérer l'hygrométrie dans la machine biologique et psychologique, puisque finalement la psychologie elle est greffée sur la physiologie. Et de ce fait, eh bien, si le lieu change d'une façon radicale, nous allons nous aussi, malheureusement ou heureusement, ça dépend, changer aussi de façon, donc, disais-je, radicale. Alors évidemment, j'ai encore un peu de temps, Denis, dis-moi, je dois courir beaucoup. Ah, ça va. Bon, ok, donc, j'étais en plein sprint. Donc, à partir du moment où on a cette vision, alors on peut aussi penser les années 2070, on sait que les appartements haussmanniens seront complètement invivables à cause du réchauffement climatique. Donc, quand on a un appartement haussmannien aujourd'hui, on se dit superbe, c'est chic, c'est bien. Bon. À cette époque-là, non, il faudra aérer autrement nos lieux de vie. Donc on sait aussi comment nous projeter dans tout ça. Mais, ah oui, d'ailleurs, un petit jeu de mots, on peut penser que les bords de Seine à Paris, toujours, ce sera peut-être en dehors enfin, en toute saison, ce sera agréable, mais l'été sera plombant. Oui, c'est assez important de le survoler, de le mentionner. Alors, oui, je vais vous parler un petit peu aussi du rapport cognitif, j'y viens bientôt, au lieu qui est un lieu, je dirais presque de transgression, c'est-à-dire on va à l'hôtel, mais quand on est à l'hôtel, on n'a plus le même rapport affectif, c'est aussi un lieu de digression d'ailleurs, transgression, digression, parce que justement, c'est un lieu où on est et où on n'est pas. Et c'est intéressant par rapport au colloque, puisqu'on a passé une semaine ensemble dans un lieu qui est hospitalier, aurait dit Nicole, qui est hôtelier, mais qui est finalement aussi un lieu où peu à peu on se sent nous-mêmes. Donc là, on commence à les dresser, vous allez comprendre mon propos. On est dans des connexions qui s'établissent entre le motrice perceptif, c'est-à-dire ce que nos muscles vivent en marchant, en montant, en descendant, en arpentant, et en même temps nos yeux, nos oreilles, donc en entrée neurosensorielle, donc nous donnent à comprendre d'un lieu. Et par rapport à tout cela, eh bien, ça modifie évidemment toute la structure, on va dire, de nature intellectuelle, la nature cognitive de l'être humain. Et puis derrière, on arrive enfin aux affects, après être passé par les percepts, l'intellect, on arrive aux affects. Et là, on peut se dire que tout ça, c'est très, très lié. Et c'est tellement lié qu'il faut aussi considérer donc les envies de s'échapper qui ont lieu dans nos cerveaux. Je vous donne un exemple tout à fait concret que j'ai d'ailleurs mentionné dans un de mes livres, un livre traitant de la neuroconnectique et du déconditionnement, précisément, biologique et psychologique, et voire social. Une personne me parlait en me disant « Oui, j'en ai assez de ma vie, je ne supporte plus, je voudrais m'installer en Inde ou au Tibet. » Et alors, je suis rentré dans une grande conversation avec cette personne-là, qui est une diplomate, et je lui ai dit « Mais tu peux aller dans l'Inde et le Tibet qui sont dans ton cerveau. C'est-à-dire, dès l'instant où tu te mets non plus à t'agiter comme un automate, à courir partout, mais à te dire « je suis là, maintenant, conscient de moi-même », à ce moment-là, le lieu le plus habité, ça a été un peu évoqué plusieurs reprises d'ailleurs pendant le colloque, et je pense qu'il est intéressant d'oser l'approfondir, ce lieu-là, c'est mon lieu cérébral, ce sont ces régions cérébrales qui s'activent, c'est moi, avec les périphériques qu'on appellera mon corps, et ce moi qui est en chacun de nous, c'est là qu'on peut se dire, à partir du moment où, au lieu de neurofonctionner d'un point de vue purement automatique, on ose explorer des modes de fonctionnement où on se dit, tiens, j'ai la main comme ci, tiens, là, j'écoute comme ça, là, je suis en train d'écrire, là, j'ai une main sous le menton, etc. Quand on prête attention à soi-même, on arrive dans un mode de fonctionnement cérébral qui est auto-observateur. Et là, déjà, on commence à ne plus avoir besoin d'être complètement, je dirais, je vais prendre un gros mot, hypnotisé par le lieu. Donc je déconstruis quelque peu tout ce que j'ai dit avant pour montrer que nous avons aussi dans notre cerveau la capacité de rester libre, indépendant des lieux, tout en sachant qu'évidemment, ils nous affectent. Mais nous pouvons nous désaffecter parce que ce Tibet ou cette Inde, dès l'instant où je prête attention à moi-même, eh bien, ils sont en moi. Donc, plus besoin de m'échapper en termes de promenade de lieu en lieu. Je peux m'échapper dans la conscience que j'ai du lieu qui est moi-même, qui est mon cerveau, quel qu'en soit le lieu. Alors, je terminerai par quelques petits mots de conclusion donc, depuis mon champ de recherche, donc la neuroconnectique. Le fait de, ce serait le suivant, considérons le fait qu'en connectant nos groupes neuronaux nous-mêmes, par un effort d'attention au lieu, nous pouvons modifier notre affect, j'entends notre dépendance affective à ces lieux, nous libérer, nous désidentifier de l'emprise des lieux sur nous. Par exemple, lorsque je marche près d'une autoroute, polluant mes oreilles par le bruit des automobiles, me dire tout simplement « mais là, je traverse une suite de cascades ».